France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto Junior pour les jeunes, pour les petits, moyens et les grands, les curieux, les mélomanes débutants, avancés. Aujourd'hui, Allegretto, un invité, musicien, violoncelliste, chef d'orchestre, homme de radio, qui fête aujourd'hui 70 ans. Eh oui, bonjour, Frédéric Lodéon.
Eh oui, ça passe. Bonjour, Denisa.
Bonjour, un jeune homme en pleine forme, Frédéric Lodéon. Aujourd'hui, donc, c'est un Allegretto avec votre enfance, votre jeunesse, je dirais, en musique. Chaque pièce que vous avez choisie, c'est un souvenir, une madeleine. Je dirais une assiette de madeleine pour ce matin.
Oui, carrément. Oui. Mais Debussy, par exemple.
On commence avec Debussy.
Jardin sous la pluie. Mon père, je me souviens, quand il rentrait de donner des cours, il donnait des leçons et puis des cours à la ville de Paris. Il rentrait dans notre immeuble qui est toujours là, HLM, donc habitation à loyer modéré, comme on disait. Et ça existe toujours, Porte de Saint-Ouen. On était au 11e étage et ça avait été très difficile de monter le piano. Je me souviens que c'était un frère de ma mère qui était le déménageur, qui avait juré dans l'escalier, qui râlait comme un pou parce que monter 11 étages avec un piano, même droit, c'était quelque chose d'épouvantable. Et quand mon père rentrait de ses cours, il se mettait au piano le soir. C'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois de la musique finalement. Et il jouait très souvent Debussy ou Ravel ou Chopin. Et là, les jardins sous la pluie, évidemment, m'ont touché et puis marqué à tout jamais. Jamais, on peut dire.
Thank you.
Saint-Saëns-François, Jardin sous la pluie, Claude Debussy. Aujourd'hui, c'est la programmation de Frédéric Lodéon qui est avec nous dans notre Allegretto, comme tous les mercredis, junior. Alors, aujourd'hui, une assiette de madeleine dans notre Allegretto avec notre cher Frédéric. Frédéric, je vous avoue que quand je suis arrivé en France, il y a 31 ans, j'ai écouté deux émissions de radio. La première, c'était Radio Montmartre, puisque j'ai habité à Montmartre. Et puis Radio Montmartre, c'était ça pour moi, la France. Il n'y avait que des chansons françaises, j'ai adoré ça. Et la deuxième, c'était vous. Vous êtes resté mon idole. Donc quand vous étiez sur France Inter, donc faire l'émission avec vous, je peux vous dire que quand on m'a annoncé que je vais faire l'émission avec vous, j'avais des larmes aux yeux. Enfin bon, passons à autre chose.
Là, ça me touche trop. Non, mais Denisa, moi j'adore vous écouter aussi. Vous savez, on est tous ensemble pour faire aimer la musique, la partager avec les auditeurs, les auditrices, évidemment. Et puis, alors...
Justement. Alors là, nous étions donc au 11e étage, dans la famille de Lodéon, à la porte de Saint-Ouen.
C'est ça, exactement.
Et ça, c'était le piano de papa qui jouait Jardin sous la pluie. Et dans la chambre... Vous avez donc partagé la chambre avec votre frère.
Alors donc, là, on Pascal. A entendu le grand Saint-Saëns François, qui a été le professeur de Bruno Rigouteau, parce qu'on a toujours un père musical. Moi, j'étais j'étais le fils de mon père, mais après, j'ai eu un autre père, on va y venir, Rostropovitch. Mais là, j'étais quelquefois en difficulté avec mon grand frère, Pascal, que j'aime tendrement, mais on partageait la chambre, et quelquefois, il y avait un peu de dispute, parce que l'un voulait travailler son violon, lui, et moi, mon violoncelle. Alors, quelquefois, on s'empoignait, on se fait des crasses. Un jour, pour se venger, il a fermé la radio. Il y avait la radio belge qui diffusait de la musique. Il y avait une chaîne toujours qui diffusait beaucoup de musique. Et il y avait un concerto de violoncelle. Alors, pour me faire enrager, il a fermé la radio au moment où il y avait un magnifique passage de violoncelle. Enfin bon, j'étais furieux. Voilà, les enfants entre eux, vous savez ce que c'est. Mais mon frère, et j'adorais ce morceau, jouait très souvent, en tout cas au début, le concerto en la mineur de Vivaldi. Et c'est quelque chose qui m'a touché, qui me reste toujours en tête. C'est ma vie de famille, c'est la petite enfance, et c'est aussi quelques petites disputes, ce qui fait le sel de la vie. Mais ce Vivaldi que je continue à aimer, d'ailleurs qui figure évidemment dans le coffret qui est sorti ces jours-ci de mes œuvres de violoncelliste, j'ai trouvé une version qui va pas être discutée, je pense, de Perlman. Perlman, merveilleux, prodigieux violoniste, que dire de plus quand même.
Donc on embrasse votre frère.
Ah oui, Pascal.
Nous écoutions donc Allegro, le premier mouvement du concerto pour violon de Vivaldi, RV 356, au violon. D'ailleurs, c'est la version évidemment choisie par Frédéric Lodéon. Au violon, c'était Itzhak Perlman qui dirigeait de son violon l'Orchestre Philharmonique d'Israël. Aujourd'hui donc, votre programmation, mon cher Frédéric Lodéon. Et vous avez évidemment choisi Pablo Casals avec son violoncelle pour Jean, pour la deuxième suite de Jean-Sébastien Bach. Mais en fait, pourquoi vous avez choisi le violoncelle? Dites-moi.
Alors, c'est un peu un accident, décidément. Quelquefois, la vie fait les choses sans qu'on les décide complètement. Parce que comme mon père jouait du piano, puis il a fait la classe d'orchestre au conservatoire. Donc, quand mon frère est né, il a fait du violon, c'était bien. Moi, je suis arrivé, il fallait un violoncelliste pour faire un trio. Et puis, quand on est arrivé à Saint-Omer, donc après avoir quitté Paris, mon père a passé un concours pour entrer comme directeur de la petite école pour devenir directeur de l'école de Saint-Omer, qui a grandi depuis d'ailleurs. Et ben, on s'est dit, tiens, Pascal, avec son violon, il va aller, il y avait un prof qui était très bien. Et moi, ma mère a dit, ben, toi, comme tu es très sérieux, à l'école, j'étais très sérieux, ça paraît bizarre, on ne peut pas le croire aujourd'hui. Mais enfin bon, j'étais extrêmement studieux. Et le professeur de violoncelle, M. Albert Tétard, était quelqu'un de formidable, mais réputé très sévère. Alors ma mère avait dit, ben, toi, tu vas le supporter, parce que comme tu es vraiment très sage, ben, si tu as un prof un peu dur, ce ne sera pas grave. Et en plus, elle avait eu cette magnifique idée de maman, comme j'étais timide, oui, ça c'est difficile à croire aussi, et ben, elle disait toujours, regarde-moi dans les yeux, marche droit, etc. J'étais timide, alors elle disait, comme ça tu seras protégé par ce gros instrument. Tu auras peut-être moins peur parce que tu seras assis, tu seras protégé par ce gros instrument. Voilà, il y a deux raisons. J'étais très sage, peut-être un peu trop, et elle voulait que je sois protégé par le violoncelle. Alors, pourquoi ce prélude? Parce que je l'ai appris là-bas à Saint-Omer avec mon professeur, que je qui a disparu maintenant, mais son fils Jérôme, qui est en Allemagne, m'a envoyé un message de vœux ce matin. Donc Jérôme, je t'embrasse, ton père m'a apporté énormément. Et j'adorais tellement ce prélude que quand on partait en vacances en voiture, on était dans une petite ronde, ça n'existe plus maintenant, mais on était déjà de nombreux enfants, déjà 3 ou 4. Il n'y avait pas la place pour le violoncelle quand on partait au bord de la mer. Il y avait le mois de vacances pendant l'été. Et moi, j'étais quand même malheureux, assis sur le perron de cette maison Ardelot, je me souviens, au bord de la mer, qui était glaciale d'ailleurs, très belle. Mais j'avais pas le violoncelle, alors je prenais un manche à balai et je jouais le prélude de Bach. J'étais là comme ça, j'agitais mes doigts et puis j'avais un archer imaginaire et j'attendais. Et pendant un mois, j'étais dans une sorte de manque d'attente invraisemblable et je me souviens très bien. Après les vacances, on revient, on ouvre la maison, je sentais un peu le renfermé, et puis il y avait sur mon lit le violoncelle qui est là, je le vois qui est là, qui m'attend, et j'ouvre la boîte, et il est toujours là, et je sors ce Bernardel que m'avait prêté l'école de musique de Saint-Omer, vous imaginez, à l'époque, on prêtait de beaux instruments, et tout de suite, presque sans l'accorder, je me mets à jouer le prélude de la deuxième suite. Alors pourquoi Casals? Parce que Casals, c'était le père de tous les violoncellistes. Thank you.
Pablo Casals pour Frédéric Lodéon, qui a joué le prélude de la deuxième suite pour violoncelle seul en ré mineur BWV 1008 de Jean-Sébastien Bach.
Allegretto Junior, Denisa Kershova, France Musique.
Et nous sommes toujours, et encore pour une bonne heure, avec, et notre plus grand bonheur, avec Frédéric Lodéon. C'est lui qui a fait la programmation. Chaque pièce, chaque petit morceau, même grand morceau, c'est une madeleine. Donc nous mangeons les madeleines de Frédéric Lodéon aujourd'hui.
Après la galette des rois, il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup aussi.
Alors Frédéric, vous avez choisi Vltava?
Oui, Vltava, la Moldau, comme on disait autrefois.
Vous l'avez étudié, c'est ça?
Et oui, on était alors en classe, on arrive à Saint-Omer maintenant, la famille avait quitté Paris. À Paris, on étouffait un peu dans cet appartement au 11e étage, c'était très bien, mais c'était tout le confort moderne, parce que je me souviens, tout petit, enfin j'ai des vagues souvenirs d'endroits qui étaient beaucoup moins confortables que ces HLM, qui étaient quand même vraiment très modernes. Mais après, on a quitté Paris, heureusement, et à Saint-Omer, on découvre la vie, on découvre le fleuve côtier, l'Aa. Ça, c'est vraiment pour les cruciverbistes qui font des mots croisés, un très court fleuve où j'ai pêché, mais pêché de manière raisonnable, c'est-à-dire avec une canne à pêche. Et je suis allé me chercher des gardons, quelquefois, au détriment de mon travail de violoncelle. D'ailleurs, mon prof de violoncelle, toujours Albert qui était redoutable et très talentueux, parce qu'après avoir quitté Saint-Omer, comme moi je suis entré au Conservatoire de Paris à 15 ans, lui, il a été nommé violoncelle solo de l'Orchestre de Paris par Charles Munch, vous imaginez. Incroyable. Il était là en attente de son destin, et on a quitté tous les deux Saint-Omer, et lui, il était en même temps à Calais, et voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir ce professeur. Et un jour, il m'a quand même donné une baffe parce que j'avais trop pêché le gardon et pas assez taquiné le violoncelle. Et bien que j'ai été le fils du directeur, de son directeur de l'école de musique, il m'a donné une claque. Ben aujourd'hui, ça ferait une histoire terrible. Mais moi, maintenant, je le remercie parce que je suis rentré dans le rang. Et donc, au lycée, en même temps, il fallait aller au lycée. Ben, il y avait un professeur de musique aussi. Et d'ailleurs, son fils est devenu contrebassiste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. On était côte à côte, le fils du professeur et moi. Et on était assez sage quand même, mais de temps en temps on faisait quelques bêtises, on lançait des fusées en papier, on s'est fait prendre une fois tous les deux, mais bon. Bref, on passait souvent dans ce cours de musique la Moldau, ce qu'on disait quand même, pardon Denisa qui est tchèque, vraiment, parce que c'est Vltava, on sait bien que
je vous pardonne tout,
y a une grosse discussion, le dire en allemand c'est un peu une insulte, mais enfin bon. Et cette musique merveilleuse, très souvent le prof la mettait pour nous occuper, nous distraire, il essayait de se faire entendre dans un certain chahut, il faut bien dire quand même. Et il avait un deuxième morceau de prédilection qui était le chant des forêts de Chostakovitch.
Ah.
Bon. Aïe, oui, non, une œuvre de circonstance. Mais la Moldau, la Vltava, c'est tellement extraordinaire. Ces deux ruisseaux qui commencent, ces deux sources. Et puis voilà, on sent que ça va devenir plus important, ça va devenir une rivière. Et puis on traverse des gorges.
On chasse dans la forêt aussi. Avec les corps.
Ah oui,
on chasse.
Oui. Et voilà.
Et puis on se marie, il y a une noce campagnarde.
Il y a un mariage, il y a des rapides. Enfin, c'est toute une aventure. Il n'y a pas que de la musique pour les jeunes, pour les enfants que nous étions. On avait l'impression de voir vraiment un film musical.
Thank you.
On chantait un tout petit peu quand même.
Hein, ah ben bah oui.
Vltava de Bedřich Smetana. Juste une petite partie, Jiří Bělohlávek, là avec dirigeant l'orchestre philharmonique tchèque. Juste une petite partie, puisqu'on va l'écouter une autre fois, bien sûr. Non, plusieurs fois, on va profiter de Frédéric Lodéon.
On la connaît bien et c'est une musique indispensable, tellement naïve, tellement touchante et en même temps magnifiquement écrite. Et il y a des moments où on a l'impression d'avoir comme un sourire à travers les larmes. Il y a une nostalgie,
c'est
mais
beau,
heureuse tout de même.
Enfin, bon, un peu salé sucré, que vous m'avez dit. Salé, sucré.
Oui, un peu. Parce qu'il passe, à un moment donné, tiens, le majeur arrive, et hop, tout de suite le mineur qui attendrit cette montée de majeur. Ah non, c'est une œuvre absolument géniale et qui m'a marqué. Donc, au lycée de Saint-Omer, lycée Ribaud, on apprenait ça, on entendait ça assez souvent. Le prof.
Quand vous n'étiez pas à la pêche?
Quand j'étais pas à la pêche, oui, mais enfin non, au cours de musique, on était quand même assez fidèles, mais bon. Et ça restera pour toujours. C'est un chef-d'œuvre. Et tant pis si on trouve ça un peu trop facile. C'est pas facile du tout, parce que ça a été écrit de manière géniale par quelqu'un qui avait été très impressionné par Wagner, notamment. Donc il y a une écriture très riche, vous l'avez entendu, avec les violons, avec tout ça, c'est tissé de manière extrêmement habile, en plus d'être très sensible.
On attaque le violoncelle, on attaque le conservatoire avec Frédéric Lodéon. Alors ça, c'est une vraie découverte dans votre programmation aujourd'hui. Le compositeur violoncelliste Georg Goltermann, comme vous m'avez dit, bon, ça c'est un concerto que les violoncellistes connaissent.
Oui, c'est ça. C'est absolument méconnu des autres.
Alors j'ai cherché, bon, c'est un violoncelliste et compositeur du 19e siècle.
Oui.
Qui composait en fait les concertos pour violoncelle, pour jouer les violoncelles. Il en a composé 9.
Oui.
Et vous le connaissez très bien parce que vous l'avez travailler pour rentrer au conservatoire.
Alors c'est ça. Donc mon maître de Saint-Omer, Albert Tétard.
Albert, on revient au Albert.
À qui je tire toujours mon chapeau. Et je salue sa femme d'ailleurs qui nous écoute certainement. Et Janine, qui est violoncelliste aussi, qui a été violoncelliste à l'Orchestre de Paris à ses côtés. Donc Albert m'avait confié ce concerto à apprendre dans une version un peu raccourcie, parce qu'il y avait des versions d'études, vous savez, on ferait plus ça aujourd'hui, mais bon, monsieur Louis Feuillard, qui avait été d'ailleurs le professeur d'Albert Tétard, avait fait une version un peu concentrée, c'est-à-dire qu'on avait le début du concerto, et puis il fallait finir de manière brillante, donc il avait pris la conclusion du final, et fait quelques pages, 4 pages, au lieu d'avoir 18 pages, il n'y avait que 4 pages. Donc j'ai joué ça une première fois, et puis Albert m'a envoyé jouer ça dans un télécrochet à Boulogne-sur-Mer, c'était pas tellement loin. Et là, il y avait des chanteurs de variété, des jeunes aussi, des petits. Et il y avait un pianiste, il y avait un violoniste et puis un saxophoniste. Et moi, je jouais du violoncelle et j'ai joué un peu intimidé. Et quand je suis rentré à Saint-Omer, j'étais assez content, j'avais pas fait de fausses notes. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal, mais t'aurais pu vibrer un petit peu plus quand même. Parce qu'il était, difficile à contenter.
Et vous aviez quel âge?
On va dire 12 ans.
12 ans. Le concerto de Goltermann qu'on va écouter, vous avez 12 ans.
Oui, et c'est pour ça que mon cher Albert, il a dit, il faut absolument que tu ailles à Paris, il faut que tu entres au conservatoire très rapidement, il faudrait que tu entres à 13 ans. Et ma mère était absolument pas d'accord, elle était furieuse parce qu'elle voulait que je reste au lycée, que je reste pour faire des études littéraires notamment, parce que j'étais assez porté sur les lettres, j'écrivais longtemps et souvent, et donc il y a eu un conflit, littéralement, une bagarre entre Albert et ma mère. Parce que lui, il voulait absolument m'envoyer le plus vite possible à Paris. Donc, il y a eu une espèce de compromis. Je suis allé à Paris seulement à 15 ans. Et heureusement, parce que ça aurait été trop tôt être seul dans la capitale comme ça. À 13 ans, c'était vraiment un peu difficile. À 15 ans, j'ai fini par arracher à mes parents l'autorisation d'aller. J'ai passé le concours. J'ai joué ce concerto de Goltermann chez André Navarra, qui était le grand maître. Je me revois encore arrivant avec ma housse, le violoncelle dans une housse, ce qui est très imprudent. Il vaut mieux une boîte. Et ma mère, qui avait accepté de m'accompagner en train quand même. On avait pris le train, on avait changé à Bapaume, à Péronne, et puis on est arrivé à Paris, et on est arrivé rue de Moscou, et on a joué devant le maître, qui avait un long fume-cigarette, comme ça, il avait une grosse voix qui était due à la cigarette aussi. Il m'a écouté comme ça, et il a dit bon, il faut qu'il entre au conservatoire tout de suite. Et ma mère a dit on ne va pas l'envoyer tout de suite, il faut qu'il continue ses études. Non, on verra plus tard, il fera ses études par correspondance. Et c'est ce morceau que j'ai joué en première épreuve du concours du conservatoire. Et je vous assure, depuis qu'on parle de cette émission, Denisa, depuis 15 jours, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce concerto. Je me réveille avec ce thème dans ma tête, mais c'est quelque chose. Parce que mon enfance surgit de nouveau. Et je ne vais pas dire à cause de vous, c'est grâce à vous, cher Denis.
Thank you.
qu'est-ce que c'est bien joué, n'est-ce pas?
Et oui, et vous avez entendu, comme ça tricote, comme on dit chez les musiciens, c'est-à-dire qu'il y a plein de notes en avant, en arrière, puis hop, là, et ça monte, et ça descend, il y a des octaves, il y a toutes sortes de difficultés. Et je me rends compte que finalement, c'était difficile de demander ça à l'enfant de 12 ans que j'étais. C'était assez ambitieux, je trouve que mon prof
très ambitieux.
Il m'a fait une grande confiance hein, finalement. Bon, il a peut-être eu raison. En tout cas, j'avais une grande excitation à jouer ces grandes difficultés justement. Ça m'excitait beaucoup. Et puis chaque fois, je me disais, est-ce que ça va passer ou pas? Est-ce que ça va être juste? Et ben, quelques fois, ça passait pas. Et Albert me faisait le reproche, mon prof évidemment, et il était pas content du tout. Et puis heureusement, pour rentrer au conservatoire, et ben c'est passé. J'ai senti ce jour-là une excitation tellement forte parce que quand on arrive au conservatoire, enfin. À l'époque, c'était rue de Madrid, à Paris, il y avait ce qu'on appelait la salle du trac. C'est-à-dire, il y avait une salle où il y avait tous les candidats qui jouaient en même temps. Ça faisait un boucan épouvantable, un bruit fou. Et mon maître, mon futur maître Navarra il avait dit à ses élèves, d'ailleurs, vous ne laissez pas impressionner, là, ce sont les solistes de la coulisse. C'est-à-dire ceux qui montrent des qualités exceptionnelles dans le brouhaha. Mais quand ils vont arriver devant le jury, ça va pas être pareil. Donc, vous ne laissez pas avoir.
Les coulisses de la coulisse.
C'est ça. Magnifique. Oui. Et c'est vrai que c'était impressionnant. On voyait des gens, on entendait des gens qui jouaient des choses invraisemblables. Et après, il faut arriver tout seul. Il disait carrément, tout nu, carrément, devant le jury. Pas forcément très aimable, enfin impressionnant de toute façon. Et c'est là qu'il faut continuer à être aussi remonté, aussi audacieux. Et ben, ce jour-là, j'ai senti cette exaltation et c'est passé. Et puis après, il y a eu la deuxième épreuve avec d'autres œuvres pas connues non plus, d'ailleurs, Davidoff, etc. Et voilà, comme ça, je suis entré chez le bon maître Navarra, qui était sévère mais juste, un basque.
Avec ce concerto de Goltermann,
oui.
Donc le troisième. D'ailleurs, vous m'avez dit, bon, il a écrit 9 concertos pour violoncelle, mais on joue que celui-là.
Ça vient un peu maintenant, j'ai vu publier le 4e timidement, peut-être on va voir, mais enfin bon, celui-là c'est le plus connu.
Orfeo Mandozzi au violoncelle.
Ah oui, bravo Orfeo.
Les Basques d'ailleurs, l'orchestre symphonique Extremadura, placé sous la direction donc de Jesús Amigo, et évidemment, nous restons avec Frédéric Lodéon dans notre Allegretto Junior. D'ailleurs, nous avons quelques petites surprises, comme par exemple cette petite archive pour vous. Écoutez bien. Bien, Frédéric.
À quel âge avez-vous joué du violoncelle?
J'ai commencé à 9 ans et demi à peu près. Il ne faut pas commencer trop tôt parce que c'est un instrument très fatigant et puis c'est pas très bon de soumettre une musculature trop jeune à un effort comme ça. Mais entre 8 ans et 10 ans, c'est bien.
Je voudrais savoir comment est fait un archet et pourquoi tout à l'heure vous enlevez des fils de l'archet.
Alors oui. Alors l'archet, c'est très simple, c'est d'abord une baguette de bois sur laquelle est tendue une mèche, c'est-à-dire un groupe de crins de cheval blanc toujours, parce qu'ils sont plus résistants en principe, mais vous voyez que la qualité se perd. Et justement, quand on joue un peu de façon un peu dynamique, on risque de casser des crins, mais ça n'a aucun inconvénient. Il suffit de les enlever. On doit changer la mèche très souvent. Surtout à notre époque, je crois que les chevaux sont moins sains. Je ne sais pas si c'est affaire de pollution ou quelque chose comme ça.
Pour combien de temps à peu près d'études de violoncelle pour pouvoir être au point, quoi?
Pour pouvoir jouer. Il faut, on compte 12 ans en général, ou 10 ans. Ça dépend des dons que tu as, et puis du travail fourni aussi. Une dizaine d'années.
Joyeux anniversaire, Frédéric Lodéon, sur France Musique.
Alors, est-ce que vous vous êtes reconnu, mon
cher
Frédéric?
Ah oui, oui, oui.
D'ailleurs, si l'enfant en question ici se reconnaît, j'aimerais bien qu'il nous contacte parce que je trouve que sa façon de poser la question, non mais, et quoi il a une façon
clair.
De spontanée,
direct, oui, oui.
Direct et je trouve désarmante. Donc si le garçon ou la petite fille en question se reconnaissent, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel sur le site de francemusique.fr.
Il y a longtemps.
Alors c'est plus exactement, c'est une émission du 28 février 1975.
Oui.
L'émission de France Musique est produite par François Sarrette et c'était l'émission qui s'appelait « Les jeunes Français sont musiciens
oui. ».
Avec Frédéric Lodéon qui était donc invité de cette émission. Alors on attaque là. D'ailleurs le premier disque que vous avez eu dans votre vie, c'est tout premier disque de violoncelle, c'est ça?
Absolument, on avait une sorte de phono, quelque chose d'assez primitif, quand on voit les instruments d'aujourd'hui, les instruments, je veux dire, les platines et autres fournisseurs de musique, on a des choses extraordinaires. Maintenant, je ne parle pas des fichiers, enfin, ça a beaucoup progressé, ou en tout cas beaucoup changé, et moi j'avais mon phono, et mon père m'avait offert, pour un anniversaire, le concerto de Dvorak, par Pierre Fournier, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Georges Selle. C'était vraiment c'était pas moqué de moi, quoi. C'était vraiment le maximum, le plus beau. Et j'adorais ce concerto, j'adorais aussi Pierre Fournier, et j'écoutais souvent le final, qui est vraiment très entraînant, sauf qu'à la fin, je sais pas si le disque avait été mal pressé ou si on l'avait rayé par mégarde, mais chaque fois, à une minute et demie de la fin, il commençait à cloquer, il faisait clac, 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 il arrivait. Alors j'étais toujours très frustré, et je le mettais au début du final. Chaque fois, je remettais le tom, 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 je remettais ce début, en espérant que ça allait passer à la fin, qu'on allait entendre enfin la conclusion. Eh ben, jamais, le disque était abîmé définitivement, et j'ai eu le bonheur, un jour, quand même, d'apprendre ce concerto, et de pouvoir entendre la fin, de pouvoir quand même arriver jusqu'à la conclusion triomphale de ce concerto de Dvorak, mais j'avoue que j'avais une passion pour cet enregistrement, avec une grande frustration en arrivant vers la double barre finale. Eh ben, ça s'est résorbé quand j'ai commencé à jouer moi-même l'œuvre, tout simplement.
Thank you.
premier disque du violoncelle de Frédéric Lodéon, Pierre Fournier au violoncelle, Georges Zell à la baguette de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, enregistrement de 1961, le final du concerto en si mineur de mon cher Antonín Dvořák. On était en train de nous dire avec Frédéric Lodéon que ce violoncelle est très héroïque.
Ah oui, oui.
C'est la naissance d'un héros.
C'est une sorte de lutte permanente contre le destin. Et puis il y a la foule qui est l'orchestre, qui est quelquefois d'ailleurs un soutien, quelquefois une opposition. Et puis je suis très content que là, il n'y ait pas eu d'opposition pour que j'entende la fin. Parce que je rappelle que mon premier disque était un peu abîmé. J'ai jamais pu arriver jusqu'au bout.
C'est ça.
Là, aujourd'hui,
on l'a pu entendre
sur France Musique. Ça y est, j'ai écouté mon premier disque jusqu'au bout. J'en suis ravi. Merci Denisa. Et puis je dois aussi remercier toutes les personnes qui envoient des messages de vœux, de bon anniversaire.
Une pluie des courriels pour l'anniversaire de Frédéric Lodéon. Bon anniversaire. Tout le monde vous embrasse. Tout le monde vous aime, Frédéric.
Bah, moi, j'embrasse tout le monde aussi.
Sincèrement, vraiment.
Vraiment.
Tout le monde voudrait.
Grande émotion, Denisa. Merci.
Oui.
Et merci à vous qui écrivez aussi.
On attaque le piano, puisqu'il y a aussi le piano dans votre programmation d'aujourd'hui.
Ah, bah oui.
Et pas n'importe lequel. Sviatoslav Richter, Václav Talich qui dirige l'orchestre de la Philharmonique tchèque de Prague, que nous n'avons pas choisi par hasard. Enfin bon, bref, voici donc ce concerto pour piano BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach que vous avez choisi puisque vous avez joué dans l'orchestre.
Exactement.
Du conservatoire.
Donc, l'école de musique du conservatoire de Saint-Omer. Et quelquefois, on se réunissait avec les autres élèves des conservatoires avoisinants. Là, je me souviens qu'on était allé à Boulogne-sur-Mer. Il y avait un prof de piano virtuose, d'ailleurs, monsieur Elof, son nom m'est resté. Et on l'a accompagné dans une tournée en Allemagne. On partait en bus en Allemagne. On faisait un peu les fous, évidemment, on était des gamins. Mais cette musique-là et le jeu de monsieur Elof m'avaient vraiment touché au cœur. Et c'est encore une fois Jean-Sébastien Bach, Sébastien Bach. Donc, moi, j'avais dit quand j'étais plus jeune que j'aurais donné volontiers 10 ans de ma vie pour rencontrer Bach, ne serait-ce que 5 minutes. Alors, j'étais très jeune. Maintenant, à 70 ans, je dirais que je donnerais peut-être quelques minutes de ma vie pour le croiser. Mais quel amour j'ai pour lui. Thank you.
Concerto pour piano BWV 1052 de Jean-Sébastien Bach, avec au piano Sviatoslav Richter, Václav Talich à la baguette de l'orchestre de la Philharmonique tchèque de Prague. Il fallait donc voir le petit Frédéric Lodéon qui était dans l'orchestre de l'école de musique de Saint-Omer, qui a donc joué ce concerto de Jean-Sébastien Bach, n'est-ce pas Frédéric Lodéon?
Et oui, avec un grand monsieur Elhoff, Charles Elhoff je crois, et c'était un professeur de Boulogne-sur-Mer, il nous avait épatés tous. Alors on faisait du chahut dans le bus, on faisait du chahut aussi à l'auberge de jeunesse où on était logé, mais quand on écoutait Charles Elhoff, ben on se tenait vraiment à carreau et on essayait de jouer vraiment en place. je vous le garantis.
C'est vrai. D'ailleurs, en écoutant Jean-Sébastien Bach, bon, on discute, mais on écoute très attentivement. Et on m'avait dit, ça swing. On a envie que ça ne s'arrête jamais.
Oui, voilà, c'est ça, un sentiment d'éternité. En même temps, il y a ce mouvement perpétuel qui est extraordinaire. On voudrait que ça dure sans arrêt. C'est tellement rassurant d'entendre ce flot musical qui avance toujours. Et puis, avec des ruptures. La rupture finale est quand même assez, assez rude. Hein. Il y a quelque chose de définitif. Mais c'est comme ça, le père Bach, il nous regarde d'un peu haut, mais avec une grande tendresse, j'en suis sûr, encore.
Voici l'adoration de la terre, la danse de la terre, du sacre du printemps de Igor Stravinsky, que vous avez choisi. Vous m'avez écrit, mon père l'admirait. C'est
oui,
vrai? Il admirait Stravinsky, il admirait le sacre?
Follement, Stravinsky. Et puis, parmi les auteurs du XXe siècle, Ravel, Debussy. Et il avait cette tendresse Dutilleux aussi, qu'il commençait à connaître. Mais Stravinsky disait toujours, mais c'est formidable, cette puissance incroyable. Et ça me rappelle le mot de Debussy, qui était toujours un peu scélérat, un peu piquant parfois. Il disait, c'est une musique sauvage avec tout le confort moderne.
C'est un tremblement de terre dans la famille de
Mais l'Odéon. Complètement, un séisme, absolument, voilà, c'est ça. Et le Karajan...
Et papa, il écoutait ça.
Ah oui.
Dans le salon, on écoutait le sacre.
Non, pas fort, parce qu'on respectait les voisins quand même, mais il y avait lui, puis il y avait Bartok, il adorait Bartok.
Ah,
voilà,
je
côté
comprends.
Rythmique aussi, pourtant mon père était un homme très doux, mais peut-être c'est justement par, au fond, par esprit de contraste, par esprit d'opposition. Et en tout cas, il nous parlait souvent de ce sacre comme d'une merveille, quelque chose qui avait changé la face de la musique.
Herbert von Karajan dirigeait ici l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
Allegretto Junior, Denisa Kershova, France Musique.
Frédéric Lodéon, il est déjà 12h10, mais qu'est-ce que ça va vite l'émission avec vous. Nous avons déjà une deuxième petite surprise pour vous.
Est-ce que vous êtes particulièrement impressionné par un violoncelliste actuellement au monde? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez tirer des enseignements de certaines grandes vedettes du violoncelle?
Je suis très impressionné par Rostropovitch, évidemment. Je crois que c'est le type qui a tout compris, aussi bien de l'instrument que de l'interprétation, de la façon de jouer. Et humainement aussi, c'est un type fantastique.
Est-ce que vous pensez que cela est dû à ses origines slaves? Est-ce que vous pensez qu'un Français peut arriver à cette compréhension totale de la musique?
Je crois qu'il a pour lui l'énergie slave, le tempérament, c'est une force de la nature. Mais en plus, il a une intelligence, c'est un type qui est génial. Donc un Français pourrait être génial s'il y avait du génie. C'est pas une question de nationalité, je crois. Il y a le tempérament slave qui aide énormément. Parce que Rostropovitch est un travailleur énorme, un type qui est toujours en activité. Et ça, les Français en général ne sont pas toujours en activité. On a un pays où la vie est tellement agréable, où on mange tellement bien qu'on n'a pas tellement envie de se forcer.
Vous étiez là?
Eh oui, quand ils ont joué ce concerto de Schumann, cette première phrase qui pour moi est fondatrice, parce que c'est la phrase la plus belle, le thème qu'on a entendu, pour moi c'est le plus beau thème romantique de toute l'histoire de la musique. Et je jouais ça quand j'étais petit, et mes parents me disaient, il est 10h, Frédéric, faut arrêter, parce que les voisins vont se plaindre. Et je recommençais, parce que c'est difficile de jouer ça juste et en place, et sans arrêt, et un jour, je l'ai entendu par Ostropovitch, c'était à Paris, avec le National, Bernstein qui dirigeait, il y avait Shelomo de Bloch aussi, au même programme, et j'ai été bouleversé, et puis Ostro, j'en ai dit un peu timidement tout à l'heure ce que j'en pensais, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a vraiment apporté énormément, un grand souffle. Alors les deux là, ils ont laissé une impression sur le public, et d'ailleurs le disque existe, on peut trouver cet enregistrement heureusement, et voilà.
Mais là, Schumann. Là vous êtes dans la salle.
Ah oui, j'étais dans la salle, vraiment, j'étais bouleversé, j'étais au parterre, pas loin du violoncelle. Vous savez, Rostropovitch, j'avais cette pique très longue, comme ça, un peu courbe, et puis il était impressionnant, pas si grand que ça, mais sa carrure donnait une impression d'une extrême puissance, il l'avait. Puis à côté de lui, Bernstein qui dansait parfois, qui avait ce charisme incroyable, et tous les deux, ils s'entendaient comme larron en foire, on va dire.
Cet archet de Rostro.
Ah, oui. Puis il prend son temps et il a raison, on s'est écrit pas trop vite, mais alors curieusement, Schumann a marqué 130 à la noire, ce qui est très rapide. Alors il était déjà un petit peu fragile psychologiquement, parce qu'il met pas trop vite et en même temps il met un tempo métronomique très rapide. Alors on a une certaine liberté, on a le droit de le faire parce que 130 c'est pas possible, tout simplement ce serait beaucoup trop vite. Bon là il donne tout son cœur, il donne toute son âme à Ostropovitch, il est suivi à merveille par Bernstein. C'était un moment absolument prodigieux avec l'Orchestre National, c'est comme si j'y étais encore, je revois la scène, c'était formidable.
Je rappelle peut-être aux auditeurs que vous étiez le premier grand prix au concours Ostropovitch en 1977.
Oui.
C'est Mstislav lui-même, Ostropovitch, qui était président du jury.
Oui.
Dans le jury, il y avait Berio, oui. Doutilleux,
oui. Xenakis.
Xenakis et Lutoslavski.
Oui.
Et vous l'avez reçu ce premier grand prix ex aequo avec Louis Sklaret.
Absolument.
C'est fou.
D'Andorre, du pays d'Andorre, Louis. Thank you.
quelle tendresse quand même.
Ah oui, oui, et puis ça voyage tout le temps du point de vue psychologique. Je me souviens que j'avais travaillé cette œuvre avec Rostropovitch au Conservatoire de Paris. Il était venu donner une masterclass et il disait que dans la première page, justement, il y avait comme une schizophrénie, c'est-à-dire le premier chant très mélodieux, très mélancolique, et puis brusquement, on passe sur un do très dynamique. Et il avait dit, voilà, c'est comme quelqu'un qui brusquement est appelé par une présence, un insecte qui passe, et il était déjà très atteint, Schumann, et il faut jouer ça comme ça, avec beaucoup, beaucoup de diversité. Et moi, jeune gamin, très sûr de lui, je lui dis, vous croyez pas que la première page, c'est tout, vraiment, il y a une unité, c'est un seul jet, est-ce qu'on peut pas jouer? Il m'a regardé, il a fait, non. J'ai compris, j'ai plus rien dit, j'ai joué calmement après.
Alors, un extrait du premier mouvement, donc du concerto pour violoncelle de Robert Schumann, ici avec le grand Mstislav Rostropovitch, l'Orchestre National de France placé sous la direction de Leonard Bernstein. Et la petite archive, juste avant, c'était l'émission de 1974 à la radio Nord-Picardie. Vous étiez à la radio Nord-Picardie. Ce qui nous a quand même impressionné, c'est que c'est à l'époque les invités, c'était dans cette émission, il y avait Maurice Béjart, il y avait un interview avec justement Mstislav Rostropovitch, et cette émission était donc présentée par Brigitte Delannoy. Retour dans votre programmation. Alors voici la symphonie fantastique de Hector Berlioz. Vous nous avez demandé la marche au supplice. Voilà. Mais avec
Charles Munch.
Bah oui.
Et l'Orchestre de Paris. Ça, c'est encore un souvenir parce que c'est le tout premier concert de l'Orchestre de Paris sous la direction de Charles Munch. Et moi, je venais d'arriver à Paris. J'avais 15 ans et j'étais avec mon père, justement. Mon père avait reçu des places. Lui, petit directeur d'une petite ville, enfin, une ville moyenne à Saint-Omer. Je vais pas me faire tirer les oreilles. C'est une ville moyenne. Et cette école de musique qui a grandi petit à petit. Mais donc, il avait ce privilège d'avoir deux places pour ce concert. Et je me souviens qu'on a vu et entendu le grand Charles, comme on disait, diriger, c'était un colosse, il transpirait, il s'engageait, il fonçait. Et à un moment donné, il y a une descente dans la symphonie, c'est marqué, les violoncelles descendent, et c'est marqué pianissimo en arrivant. Et lui, il n'a pas obéi du tout. Il est arrivé fortissimo, il a fait la descente des violoncelles, au lieu de jouer pianissimo, il est arrivé, boah! Et mon père m'a dit, tu vois, c'est vraiment pas ça qui est écrit, mais c'est absolument génial. C'est en souvenir de ce concert avec mon père, premier concert de l'Orchestre de Paris sous la direction de Charles Munch, le grand Charles, je vous ai demandé cet extrait de la symphonie fantastique de Berlioz.
Thank you.
une pluie des courriels pour votre anniversaire, notre cher Frédéric Lodéon. Et oui, il y a aussi un auditeur qui dit, il n'y a pas que la programmation musicale, il y a aussi sa voix. C'est vrai, sa voix, votre voix, Frédéric, plein de générosité, d'émotion, d'humour aussi. Alors, est-ce que vous pouvez, juste pour le plaisir des auditeurs et le mien évidemment aussi, faire la désannonce?
Ah, mais oui, mais
comme
bien
on
sûr.
Dit dans notre jargon technique.
Ben oui, mais qui est bien précis quand même. Donc, Hector Berlioz, Symphonie Fantastique, La Marche au Supplice, l'artiste s'est mal comporté, il va être exécuté, on entend d'ailleurs le couperet qui tombe, la pauvre clarinette là, qui s'égosille dans l'aigu, il supplie, mais non, paf, terminé. Et ben, c'était l'Orchestre de Paris avec Charles Munch, le grand Charles, maître extraordinaire qui a dirigé l'Orchestre de Boston aussi, qui était connu dans le monde entier, qui avait un charme fou, une énergie, enfin bon, un des maîtres que j'ai connu en tout premier en arrivant à Paris. Et j'étais marqué d'une manière invraisemblable, et ça restera pour toujours d'ailleurs.
Joyeux anniversaire, Frédéric Lodéon, sur France Musique.
Bon anniversaire, Frédéric Lodéon.
Merci.
Vous embrasse. Alors, nous avons évidemment, comme tous les jours dans notre Allegretto, les invitations pour un concert ou un spectacle. Aujourd'hui, ce sont les invitations pour un Rigoletto. L'opéra participatif pour les enfants proposé par le théâtre des Champs-Élysées du 4 au 16 février. Il y a les représentations scolaires et publiques aussi le 6, 12 et 13 février. Alors c'est au théâtre des Champs-Élysées avec l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Victor Japoc qui propose un spectacle participatif aux enfants. Et la représentation d'ailleurs débute avec une mise en voix de 30 minutes. Donc vous allez chanter. Si vous êtes libre, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Et nos invitations sont pour, attention, l'agenda, petit crayon, samedi 12 février à 16h. Donna immobile, extrait de Rigoletto de Giuseppe Verdi, ici avec Michael Spires, l'orchestre de chambre de Moscou, placé sous la direction de Konstantin Orbelian. Je vous rappelle que nous avons donc quelques invitations pour le samedi 12 février à 16h pour le spectacle qui s'appelle Un Rigoletto, imaginé par Manuel Renga, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. N'hésitez pas, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Ben oui, Frédéric, c'est déjà fini notre Allegretto. Ensemble, un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre programmation et pour le reste. Ben,
Vanessa, je vais continuer à vous écouter avec passion. Voilà, et vous faites magnifiquement les choses aussi et vous partagez merveilleusement votre sensibilité, votre connaissance des œuvres. Et puis, j'adore votre gentillesse et cette malice qui affleure très souvent.
C'est gentil. En tout cas, on vous retrouve chez Lionel Esparza dans son émission Relax. Ainsi se termine donc notre Allegretto d'aujourd'hui. Merci. Quel talent, les garçons. Jean-Frédéric à la technique, Emmanuel Benito à la réalisation, Arnaud Chapat qui nous a trouvé les archives et Maud Nourri, l'attaché de l'émission. Portez-vous bien, passez une très belle journée sur France Musique. Je vous retrouve demain à 11h.
À réécouter sur francemusique.fr.